on est face à un monstre de l'agroalimentaire. Et donc, effectivement, nous, avec nos petits bras, on a beau se battre et revendiquer une remunicipalisation de la cantine, c'est sûr que ça se fait pas en claquant des doigts. Ça demande une vraie volonté politique, ça demande de se réapproprier des moyens qui ont été abandonnés, laissés au privé. Ça veut dire retrouver des locaux dans lesquels on peut refaire de la cuisine. Mais reconstruire toute cette chaîne-là, moi, il me semble que c'est assez fondamental.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Une Macédoine de légumes en conserve, du chou-fleur cuit à l'eau, un beefsteak grisâtre, un carré de fromage industriel. Chaque midi en France, on malmène à grande échelle le palais de millions d'élèves. Vous l'avez compris, nous parlons ici des cantines scolaires, ces lieux de restauration collective qui trop souvent échouent à bien nourrir les plus jeunes, au sens diététique comme au sens gustatif. Or, qui dit repas insipide dit gaspillage alimentaire, mais aussi risque de sensation de faim au cours de la journée. Dans mon lycée, par exemple, on mangeait si mal que j'ai le souvenir d'avoir parfois pris sur mon temps de récré pour aller m'acheter un paquet de gâteaux au supermarché du coin. Selon les chiffres de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, une cantine scolaire jette en moyenne 44 kg de nourriture par repas. Alors pourquoi le contenu des assiettes de cantine fait-il aussi peu rêver? Pourquoi associe-t-on autant à la cantine l'idée de texture molle, de goût homogène, de bouillie réchauffée? À des périodes aussi charnières dans la construction de soi comme l'enfance et l'adolescence, comment peut-on autant délaisser la question de l'alimentation, notre première médecine pour une bonne santé? Alors que pour beaucoup d'élèves issus de milieux défavorisés, le repas de la cantine constitue le seul vrai repas de la journée, la cantine scolaire devrait être un droit pour tous les enfants. Et dans un monde meilleur, elle devrait être un endroit où l'on s'alimente avec joie, grâce à des produits frais, des fruits et légumes locaux et de saison, des recettes simples, le tout le temps d'une vraie pause dans la journée, ou se retrouver avec ses camarades de classe et se ressourcer. Cette situation pourrait être garantie notamment par le fait d'avoir des cantines sur place, avec des vrais cuisiniers et cuisinières, des professionnels qui travailleraient tous les jours à élaborer des menus sur place, mijotés avec soin. Après tout, c'était la norme il y a 30 ans. Le problème, c'est que par souci de rationalité économique, entre-temps, ces postes ont été massivement supprimés des établissements scolaires. Désormais, environ un tiers des collectivités sont en délégation de services publics, comme le veut l'expression. Cela veut dire qu'elles externalisent la préparation des repas en confiant cette mission à des prestataires privés. Ils sont trois à régner sur le marché national, Sodexo, Compass et Elior. Avec eux, les repas sont préparés dans des cuisines centrales qui fonctionnent en liaison froide. Pour assurer ce service, les plats sont généralement cuisinés, ou plutôt devrait-on dire assemblés, de 3 à 5 jours à l'avance. Dans cet épisode, je m'entoure de Cécile Baron, parent d'élèves, membre du collectif des écoles de Marseille. Celle qui est aussi référente cantine FCPE 13 et membre de la commission menu cantine, déplore le fait que malgré une pétition qui a réuni 4000 signatures de parents réfractaires à la Sodexo, Marseille a renouvelé en 2018 un contrat de 7 ans avec le géant de la restauration collective. Au micro de Bouffon, elle explique les problèmes des cantines scolaires aujourd'hui à travers l'exemple de Marseille et le défi qu'il y a à remunicipaliser cette offre.
On a un problème de contenu de l'assiette, avec d'où vient ce contenu, comment est-ce qu'il est produit et quel est le lien que les enfants peuvent faire entre ce qu'ils voient dans leur assiette et comment ce contenu a été cultivé, transformé, etc. Donc ça, c'est un premier point, c'est vraiment ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment. Et il y a un deuxième point qui est les conditions dans lesquelles ils consomment ce repas, parce que souvent, le temps du midi dans les cantines scolaires est un temps très stressant, anxiogène, tendu, on a souvent des réfectoires qui sont bruyants, avec des agents municipaux qui, en sous-effectif, sont obligés de presser les enfants pour qu'ils mangent plus vite, qu'ils se débrouillent par eux-mêmes sans savoir exactement ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc tout cela crée une ambiance qui n'est pas propice à l'éducation du goût. Et à ce que le repas, qui devrait être un temps de convivialité, de détente pour les enfants qui sortent de classe et qui ont besoin aussi d'échanger, de communiquer, de discuter entre eux autour d'un repas, eh bien, ils ne peuvent pas le faire parce que voilà, on est face à une cuisine industrielle.
Et toi, Cécile, donc tu fais partie des commissions menu cantine, tu es aussi parent d'élèves élus. Qu'est-ce que tes enfants te rapportent de l'expérience de la cantine? Qu'est-ce que tu les entends te raconter quand ils reviennent à la maison le soir?
Alors, souvent, le premier commentaire, c'est « c'était pas bon ». Voilà. Alors après, on cherche évidemment à savoir déjà ce que c'était. Donc, parfois, on confond le poisson et le poulet. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, les goûts ne sont pas vraiment bien définis. Sachant que mes enfants, d'ordinaire, sont des bons mangeurs, aiment bien ils se tiennent bien à table, ils apprécient les goûts, ils sont intéressés, curieux, etc. Donc, je pense qu'ils souffrent, en fait, de ce temps de cantine parce que, justement, ils ne retrouvent pas ce temps et cette qualité de nourriture et ce plaisir, en fait, à manger. En fait, c'est vraiment ça qu'il faudrait retrouver, c'est ce plaisir. Donc, mes enfants redoutent, en fait, ce moment, et dès qu'ils peuvent, en fait, ne pas le vivre, s'échapper et être récupérés pour ne pas manger à la cantine, ils sautent sur l'occasion, ils en sont ravis.
Ils te demandent, par exemple, quand tu peux, ils te demandent de venir les chercher à midi, de les délivrer en quelque sorte.
C'est ça. Ils cherchent à être délivrés de la cantine, délivrés de ce moment et prendre un peu le temps, se poser, s'alimenter avec des choses qu'ils aiment, qu'ils vont pouvoir goûter, apprécier, etc. Donc ça, oui. Alors, malgré le fait que ce temps de cantine aussi est un temps pendant lequel ils jouent avec leurs petits camarades. Donc, ils sont toujours un peu tiraillés entre le fait de se dire « Ah, je vais rater le fait de jouer, de m'amuser avec mes copains » et le fait de manger quelque chose qui va pas être bon et qu'ils vont pas aimer, qu'ils vont devoir manger trop vite, avec du bruit, etc. Donc, c'est... Voilà. C'est tout le temps, le matin, il faut arriver à les convaincre d'aller manger à la cantine. Et c'est pas toujours facile, parce qu'on n'est pas toujours convaincu que c'est une bonne chose pour eux.
Peut-être qu'on manque parfois d'arguments aussi, et qu'on comprend finalement pourquoi ils rechignent, eux, à y aller. Alors, on peut en revenir aussi au contenu même du plateau repas, et parler tout de suite du loup qu'il y a dans la pièce. Donc, évidemment, on pense à la Sodexo. En mars dernier, la Provence titrait « Voilà le pique-nique Sodexo ». En parlant en fait de ce qui était donc donné aux enfants à ce moment-là, donc on avait un petit morceau de pain, un jus de fruits en briquette, une petite macédoine probablement en conserve, un carré de kiri. Quel est le problème du coup avec la Sodexo aujourd'hui? La Sodexo en fait prépare à manger dans ses cuisines centrales, et donc on n'a plus aujourd'hui de cuisiniers et de cuisinières sur place dans les écoles. Ça, c'est un truc qu'on a de moins en moins en France.
À Marseille, effectivement, on n'en a plus du tout. Donc ça, c'est, et ça fait de nombreuses années, hein. Donc effectivement, nous, c'est la Sodexo qui sert environ 55 000 repas en fait par jour dans les écoles publiques de Marseille. Donc 55 000 repas, c'est assez énorme, et tout ça sort d'une seule cuisine centrale. Donc on ne peut pas avoir la même qualité de produit et de préparation et d'attention qui peut être portée au repas et à la façon dont il va être préparé que quand on en fait pour, on va dire, 200 enfants et quand on le fait pour ou même 2000 enfants et quand on le fait pour 55 000 enfants. Donc il y a une espèce de déshumanisation un peu de cette préparation du repas. Donc moi, j'ai visité la cuisine centrale, donc on a effectivement, donc moi je l'appelle plutôt une cuiseuse centrale, parce que ce qui s'y passe, c'est essentiellement de la cuisson. Donc on cuit dans des grands fours vapeur qui sont immenses, sur des chariots à coups de plusieurs centaines de kilos, j'imagine, pour certains produits, et tout ça est mis en barquette, en cellule de refroidissement, et livré quelques jours après dans les cantines. Donc les gens qui servent dans les cantines n'ont absolument pas participé à la préparation de ce repas, qui morcelle complètement les différentes étapes. Donc on a entre le cultivateur qui va produire ses légumes, ses fruits et légumes, celui qui va les réceptionner, les transformer, les cuisiner, et celui qui va le servir. En fait, on a toute une chaîne de personnes qui ne communiquent jamais entre elles, qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas le travail que font les uns et les autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui déshumanise effectivement le repas à la cantine.
C'est une situation d'autant plus rageante, disons-le, qu'on a autour de Marseille, on a dans cette région beaucoup de maraîchers, de maraîchères, on a des producteurs locaux, des produits magnifiques. On aurait envie en fait de pouvoir valoriser ces beaux produits, ces beaux fruits et légumes, et de laisser des cuisiniers et des cuisinières préparer ça sur place, vraiment, qui est une préparation au jour le jour, que ce soit servi chaud, que les personnes qui servent soient aussi, comme tu l'as dit, les personnes qui ont cuisiné. C'est d'autant plus absurde de ne pas pouvoir faire ça et de passer par la Sodexo. Donc, on peut parler de situation de monopole, hein, puisque le contrat entre Marseille et Sodexo a été renouvelé en 2018, alors même que beaucoup de parents d'élèves critiquaient déjà cette offre alimentaire.
En fait, Jean-Claude Gaudin avait choisi de passer donc la restauration scolaire en délégation de service public, donc c'est-à-dire que la municipalité se décharge complètement de cette responsabilité-là, et donc la confie à des grands groupes en fait de la restauration collective. Et effectivement, les deux derniers contrats, donc celui de 2018, mais le précédent également, étaient des contrats où la Sodexo avait le monopole sur l'ensemble des 470 écoles marseillaises. Donc l'argument donné est que comme ça, le même repas est servi à tous les enfants. Ça, c'est l'argument. Alors après, si on sert à tous les enfants un repas de piètre qualité, moi, je trouve pas que ce soit forcément un bon argument. Mais voilà, donc ça c'est effectivement un géant de l'agroalimentaire qui est aux manettes. Et ce que ça implique aussi, et ce qui pour moi est assez important, c'est effet un peu boîte noire, c'est-à-dire que comme la municipalité n'a plus du tout la main sur ce qui est fait et ce qui est produit et ce qui sort de la cuisine centrale, on a aussi du mal à savoir par exemple, les ingrédients qui sont contenus dans les préparations. On a des arguments de secret industriel qui nous sont avancés lorsqu'on cherche justement à avoir plus d'informations sur comment sont préparés les repas, etc. Donc, il y a des choses qui sont mises en place pour, j'ai envie de dire, faire croire que les parents ont accès à l'information. Donc, on visite la cuisine centrale, mais tout cela est évidemment très encadré. On nous distribue des jolis prospectus bien colorés avec des choses qui sont mises en avant, comme par exemple l'huile d'olive de Mourioux. Moi, à un moment donné, quand mes enfants sont rentrés à l'école, j'étais persuadée que toutes les vinaigrettes étaient faites à l'huile d'olive de Mouriès. Et je me suis dit, waouh, mais comment font-ils pour négocier l'huile de Mouriès à un prix Et en fait, non. En fait, l'huile de Mouriès n'est servie que deux ou trois fois, je crois, dans l'année, dans une vinaigrette. Donc là, effectivement, c'est spécifié. Mais ce produit était mis en avant. Donc, ils sont très forts. C'est un géant. C'est le numéro un mondial de la restauration collective. Donc, on est face à un monstre de l'agroalimentaire. Et donc, effectivement, nous, avec nos petits bras, on a beau se battre et revendiquer une remunicipalisation de la cantine. C'est sûr que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça demande une vraie volonté politique. Ça demande de se réapproprier des moyens qui ont été abandonnés, laissés au privé. Hein. Ça veut dire retrouver des locaux dans lesquels on peut refaire de la cuisine. Ça veut dire reconstruire toute cette chaîne-là. Moi, il me semble que c'est assez fondamental. Alors, il faut commencer petit à petit. Je pense qu'il va y avoir forcément une période de transition, mais qui se construit et qu'il va falloir beaucoup de temps pour construire tout ça. Ça va pas se faire, effectivement, du jour au lendemain. Mais je pense, effectivement, que le tissu agricole, on va dire, environnant de Marseille, laisse des possibilités qui sont à ce jour inexploitées, et c'est bien dommage.
Aujourd'hui, en France, il y a donc beaucoup d'écoles, beaucoup d'établissements scolaires qui sont liés à la Sodexo. Mais la particularité avec Marseille, qui est quand même la deuxième plus grande ville de France, c'est que, en fait, toute la restauration scolaire est attribuée à ce prestataire unique. Alors, je me demande aussi si c'est pas parce qu'il y a peut-être un lien historique ou sentimental entre la Sodexo et Marseille, parce que la Sodexo a pour origine donc cette petite entreprise fondée au 19e siècle à Marseille pour approvisionner à l'époque les bateaux d'une compagnie sur la ligne Marseille-Alger. En tout cas, aujourd'hui, les cantines à Marseille sont liées à la Sodexo jusque 2025. C'est un peu long, non, 2025?
Oui, c'est très long. Et alors nous, ce qui nous, enfin, quand il y a eu cette dernière négociation du contrat, du coup en 2018, on savait qu'il allait y avoir une échéance électorale 2 ans plus tard, et on aurait aimé pouvoir se dire bon bah on rempile pour 2 ans, mais peut-être que dans 2 ans on va pouvoir envisager autre chose. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, c'est pas le scénario qui s'est produit, mais là maintenant, ce qu'on aimerait effectivement, c'est pouvoir penser la cantine autrement et reconstruire tout ça, reconstruire du lien, du sens. On n'a pas parlé des odeurs, mais moi je sais que quand j'étais petite et quand j'ai appris à cuisiner, l'odeur des choses qui étaient en train de cuire et comment l'odeur évoluait en fonction du niveau niveau de cuisson, les associations, etc. Je trouve ça hyper important. Et quand on rentre dans une école, sentir l'odeur du repas qui est en train d'être préparé, moi, je trouve que ça serait hyper important pour les enfants. Et ben là, c'est pas le cas. Ils sentent absolument rien. Ils rentrent, voilà, il n'y a pas d'odeur. On leur sert un plat, je me demande même s'il a une odeur. Parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, mais... ce qui est assez flagrant dans ce qui est servi par la Sodexo. Donc, les enfants vont dire « c'est pas bon ». Mais en fait, ce qui a été... Il y a eu un documentariste, notamment, qui avait fait un reportage sur les cantines à Marseille. Et en fait, ce qui ressort du test qu'on peut faire comme ça sur une semaine, c'est qu'en fait, les aliments sont assez insipides. C'est pour ça que les enfants ont du mal à identifier ce qu'ils mangent, parce que finalement, tout a un peu le même goût. Et d'un jour à l'autre, ils se retrouvent à manger des choses alors qu'ils ont certes peut-être une couleur différente, une forme différente, mais qui, au goût, ils vont pas trouver une différence flagrante. Donc, voilà. Et l'odeur ne passe pas non plus. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve sur quelque chose de très standardisé, monotone, qui peut pas susciter ni l'envie, ni le plaisir des enfants de découvrir des choses nouvelles. Donc, c'est vraiment dommage.
Oui, donc tu citais là le travail de la journaliste Valérie Simonet qui s'est dévouée à manger pendant un mois à la cantine et qui disait oui, effectivement, que tous les repas avaient tendance à peu près avoir le même goût. Et effectivement, quand on imagine ces repas préparés dans cette cuisine centrale et puis refroidis et toujours peut-être en tournant sur à peu près les mêmes ingrédients, on s'imagine que la palette des goûts doit être plutôt restreinte.
Parfois, les noms ronflants, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on cherche la complexité. Donc, alors peut-être que du coup, dans la complexité, on peut masquer certaines choses, j'en sais rien, mais parfois il y a des intitulés, alors là j'en ai pas en tête, mais on a des intitulés un peu pompeux, alors qu'on se dit, mais à la limite, on aurait, je sais pas moi, un filet de poulet avec des pommes de terre qui auraient été rissolées avec une petite persillade, enfin quelque chose de simple, mais avec des produits, le goût du produit, pas une espèce de sauce qui enrobe tout ça et qui fait qu'au final, effectivement, le poulet, le poisson, du moment qu'il y a du citron, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Et ça, c'est quand même très embêtant.
D'autant plus qu'il y a vraiment matière à faire différemment. Par exemple, dans l'Allier, il y a des écoles donc, qui ne sont pas pieds et mains liés à la Sodexo. Il y a notamment cette cantinière à Ébreuil qui s'appelle Evelyne Debourg et qui explique en fait qu'avec vraiment tout simplement les produits de saison, sans forcément faire des recettes très très compliquées, elle arrive à faire manger de tous les fruits et légumes aux enfants. En vérité, ils sont très curieux. Alors, elle dit aussi que quand on leur pose juste une pomme, peut-être que ça les incite pas trop à l'éplucher, à faire cet effort de manger. Mais par contre, si elle le fait elle en amont et qu'elle présente ça sous forme de sucette, en fait, ils mangent de tout.
Mais oui, bien sûr. On a, y a Gilles Perrol aussi qui, Moins Sartou est très connu pour ça, mais effectivement, lui, il expliquait que les enfants, la cour à la base, bon, les enfants, ça les ravit pas. Mais comme ils ont vu comment pousser les courges eux-mêmes, ils ont été participés à cueillir les courges, etc. Et bien finalement, quand ils les retrouvent dans l'assiette, ils ont un intérêt qu'ils n'auraient pas eu autrement. Donc c'est vrai que ce travail-là qu'il y a autour de l'aliment, il peut inciter les enfants. Et leur implication, en fait, dans cette production ou cette transformation de ce qu'ils vont avoir dans l'assiette, je trouve ça quand même quelque chose, effectivement, qui est assez essentiel et qui éveillerait, qui fait partie de l'éducation, qui éveillerait, je pense, chez beaucoup, plein de connaissances ou d'envie, qui serait hyper stimulant. Or là, on se retrouve avec un temps qui est à l'opposé de la stimulation intellectuelle et gustative.
Alors, l'objectif, ce serait donc de remunicipaliser la cantine scolaire. Comment on pourrait s'y prendre ?
Une première étape, ça pourrait être de remunicipaliser la cuisine centrale, déjà. Donc, de reprendre la main, même si on reste sur des productions à grande échelle. Mais ça peut être un des éléments pour entamer la remunicipalisation. Et ensuite, je pense qu'il faudrait bien faire des expériences réparties dans Marseille. Donc, on peut imaginer, alors sans dire qu'il y ait de nouveau une cuisine par école, ça serait peut-être pas forcément le plus judicieux, d'abord parce que l'immobilier, en fait, est souvent, enfin, dans certains quartiers, on ne trouverait pas ces lieux-là, donc ça serait pas possible. Mais en revanche, on pourrait penser à une cuisine par arrondissement ou par deux arrondissements, ça a été étudié, mais on sait qu'en gros, on peut produire de manière, on va dire, correcte, raisonnée, attentive. Je crois que c'est 2000 repas à peu près dans une unité où on est sur des choses qui restent à taille humaine, on va dire, et qui permettent de garder ce lien-là, dans ces liens dont on parlait. Donc on pourrait imaginer ça, voilà, commencer petit à petit à recréer des lieux où on fait la cuisine, où les enfants, sans dire que le matin, ils sentent l'odeur du repas, mais en tout cas, où ils puissent venir visiter, pas trop loin, ça leur fait une sortie scolaire, ils peuvent participer à un repas, voilà, voir qui leur prépare à manger, voilà, et faire ce lien-là sans que ce soit, voilà, effectivement livré par des camions frigorifiques à toute vitesse, qui vont juste déballer des barquettes, qui seront réchauffées plus ou moins bien en plus, parce qu'il faut quand même savoir que des frites réchauffées dans les fours des cantines, ça ce ne sont plus des frites, en fait, c'est mou, et c'est pas bon, et voilà, ça a beau être des frites, ben, les enfants, ils continuent à dire, ah ben non, mais les frites, elles étaient pas bonnes. Donc, voilà, ça serait des choses possibles. Et comme je le disais tout à l'heure, la Sodexo, il n'y a peut-être pas tout à jeter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément dire que tout est mauvais. Je pense sincèrement qu'ils ont créé des liens avec des producteurs qui mériteraient en fait d'être toujours impliqués dans ce qui va être servi dans les écoles. Donc on pourrait conserver ces partenariats qui ont été tissés, parfois certains depuis plusieurs années. Donc on pourrait retrouver, et on pourrait même, moi ça reste quelque chose que je trouve pas si utopique que ça, créer des paysans municipaux, comme ça a été fait d'ailleurs à Mont-Saint-Sartou ou des choses comme ça, où on a... vraiment, ça c'est un service public d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire que voilà, on produit pour les cantines scolaires et voilà, on participe à l'éducation de tous de manière égalitaire.
Tout ça, donc, ça demande une volonté politique finalement et renoncer à la simplicité Sodexo, puisque je crois qu'à l'origine c'était vraiment ça l'idée, c'est on va tout confier à ce dinosaure qui va pouvoir s'occuper de toute cette restauration scolaire. De bout en bout, et donc remunicipaliser, oui, donc ça va forcément passer par une organisation différente. Est-ce que ça supposera aussi plus de budget? Parce que parfois, c'est la question qu'on entend, la question économique. Est-ce que ça coûterait plus cher?
Alors, moi, j'ai envie de penser que non. Alors après, je suis pas spécialiste. Il faut savoir que quand même, la Sodexo, ça reste un groupe privé. Donc, il y a forcément, à un moment donné, des actionnaires à rémunérer. Et donc, il y a forcément un bénéfice qui, en fait, ne va pas aux enfants, donc ni aux contribuables marseillais, en fait. Donc, on a déjà cette part-là. Ensuite, on a aussi pas mal de choses sur le gaspillage. Je pense qu'on pourrait vraiment travailler sur des façons différentes, en fait, de portionner les repas, de mieux les adapter. Parce que là, parfois, on se retrouve avec un repas qui va être portionné de la même façon pour un enfant de CP que pour un enfant de CM2. On va avoir des façons de présenter les choses aussi qui vont peut-être permettre de moins gaspiller. Si on fait un travail là-dessus, on peut aussi franchement gagner de l'argent, pour être honnête. Et si on travaille en local, si on travaille... Donc peut-être qu'il faudra revoir les menus et peut-être on n'ira pas chercher l'agneau de Nouvelle-Zélande, et encore, je ne suis pas sûre que ce soit le plus cher, mais on n'est peut-être pas obligé d'aller chercher des choses très compliquées. Peut-être on peut se contenter d'aliments sains, simples et locaux et qui, du coup, qui remplissent le boulot, c'est-à-dire de donner du goût au repas, de préserver la santé des enfants et en même temps de leur faire découvrir des choses nouvelles. Donc la viande, par exemple, on pourrait limiter beaucoup l'apport en viande qui coûte cher, surtout si on veut de la viande de bonne qualité. Donc là, on se retrouve à... Parce que pareil, hein, là, on a beau dire... les coûts, mais en fait, quand on voit qu'on sert du hoki aux enfants des écoles de Marseille, et que le hoki, c'est vraiment un poisson qui a peu d'apport nutritif, c'est un poisson des profondeurs, qui coûte pas cher, etc. Enfin, donc, voilà. Moi, je pense franchement qu'on pourrait faire une qualité bien meilleure en ayant ce lien de la terre à l'assiette, et pour autant que pour le parent marseillais, ça ne lui coûte pas forcément plus cher.
Ça demanderait donc effectivement un peu d'organisation, reterritorialiser les choses, mais il y a un moment où ce serait également plus intéressant pour tout le monde, pour une chaîne de valeurs qu'on crée aussi en justement parlant directement avec les producteurs et productrices qu'on a beaucoup dans la région. Alors aujourd'hui, on entend aussi souvent que la Sodexo fait des efforts, donc le plastique va être interdit, il y a cette histoire de repas végétariens, des produits bio, une valorisation des produits locaux. Ce qu'on dit moins, c'est que finalement, la Sodexo ne fait que se conformer à la loi Egalim, qui est donc cette loi qui contraint. Donc c'est pas forcément juste une bonne volonté qui émane d'un grand groupe, mais une loi Egalim donc qui arrive enfin.
Ça fait partie de l'affichage, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ils ont une communication qui est très bien rodée, ils savent très bien faire. Donc effectivement, ils surfent vraiment sur ces aspects du repas là qui sont très. Les parents font attention. Moi, des parents m'ont dit à la sortie de l'école, oh, mais tu râles après la Sodexo, mais regarde sur le prospectus, il y a écrit 50% de bio, 30% de produits locaux ou l'inverse, je sais plus. Bon, sachant que ce qui est très drôle, c'est que donc on a l'impression que presque tout est bio et local. En fait, non, les deux se superposent souvent. Donc au final, on n'a pas 85% de produits bio et locaux. Enfin voilà. Donc il y a des tas de petites choses comme ça qui font que l'image marketing est très bien travaillée. Et donc effectivement, on pourrait avoir l'impression qu'ils font beaucoup plus que ce qu'il aurait demandé. Et en fait, non. Tu le rappelais très bien. On a juste le respect d'une loi qui est imposée et guère plus.
Je termine par une petite question qui est notre nouveauté maintenant dans les épisodes de Bouffon. Est-ce que tu peux nous dire ce que manger veut dire pour toi ?
Manger, pour moi, c'est vraiment partager. Pour moi, manger, ça veut dire aussi faire la cuisine. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc quand je parle de manger, je parle de faire la cuisine. J'adore faire la cuisine et j'adore la faire pour les gens que j'aime, en fait, et avec qui j'ai envie de partager des choses. Donc et le temps du repas, c'est quelque chose, effectivement, qui est un peu sacralisé chez moi. Voilà, même seul, en fait, je me prépare à manger. Je considère que voilà, c'est un temps qu'il faut respecter. Et voilà, et ça veut dire discuter, ça veut dire échanger, ça veut dire oui, mais partager. C'est peut-être ce qui résume le mieux tout ça.
Après l'enregistrement, Cécile Baron m'a fait remarquer que le contrat de 7 ans qui lie Marseille et la Sodexo ne se terminera qu'en 2025. Et que même si elle continue à se battre pour une meilleure cantine, il se pourrait bien que le plus grand de ses enfants n'en voie même pas la couleur. Et c'est bien ça le truc décourageant avec cette bataille. Le fait de s'attaquer à des contrats longs, indéboulonnables, et de s'essouffler à le faire jusqu'à ce que d'autres parents éventuellement prennent la relève, pour peut-être en faire profiter des générations futures. Et puis, à propos de l'argument du « une meilleure cantine coûterait forcément plus cher », qui est un peu un argument massu, il y a doublement de quoi s'interroger, selon Cécile. D'abord parce que valoriser le frais et le local ne coûte pas forcément plus cher, comme elle l'a fait remarquer dans l'interview, mais aussi parce que, après tout, même si ça coûtait un peu plus cher le temps de revoir nos infrastructures et l'organisation de la chaîne, et si ça en valait le coup, et si l'alimentation des plus jeunes était enfin un sujet sérieux et sur lequel rester intransigeant. En attendant qu'une volonté politique transforme durablement les cantines scolaires, des associations de terrain se bougent, telles que l'École Comestible, portée par la journaliste Camille Labro, que je recevais dans l'épisode 127 de Bouffon. Et je vous quitte avec un petit teasing qui devrait vous intéresser si vous habitez en Provence. L'École Comestible Provence débarque bientôt et je promets de vous en donner rapidement des nouvelles. Merci à Cécile Baron de m'avoir donné de son temps pour parler de cantines scolaires. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Donia Wahada et de Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.